Vous écoutez France Culture.
Le Monde selon Hubert Védrine, comme chaque vendredi. Hubert Védrine, le très bon mensuel, la revue qui recense les débats géopolitiques du monde entier, qu'ils soient économiques, diplomatiques, guerriers, j'en passe, révèle donc que la Banque mondiale a effectivement lâché une bombe après avoir réactualisé ses données. La Banque mondiale affirme que la Chine aura dépassé les États-Unis au classement des puissances économiques mondiales d'ici à la fin 2014 et de livrer les analyses et les discordances de deux experts, Martin Wolf et David Pilling. Mais bien sûr, cette nouvelle-là, évidemment, considérée comme une bombe, faut-il que l'on s'en inquiète? Doit-on dire ici, comme souvent, « Ah, la Chine m'inquiète ».
Oui, ça c'était la marquise de Villeparisis. Vous êtes très en forme ce matin. C'est du football à Proust.
C'est l'entraînement.
Alors, non, c'est un événement, c'est une annonce importante parce que ce dépassement, mais on va dire dans quelles conditions, de l'économie chinoise par rapport à l'économie américaine était annoncé pour 2020, 22, 23, 24, 25. C'était une perspective.
Ça s'est accéléré.
Ça s'est accéléré, ça devient une réalité immédiate, alors même que la Chine n'a plus tout à fait les taux de croissance d'avant, qui parfois dépassaient 10%, et qu'on entend ce que disaient les Chinois, selon lequel, s'ils n'ont pas plus de 7% de croissance par an, ils ne sont pas sûrs de pouvoir répondre aux demandes sociales, aux problèmes qui se développent dans ce pays, etc. Mais le fait est là, donc annonce pour 2014. Mais il faut bien souligner que c'est le produit intérieur brut, donc c'est la richesse collective du pays, 1,3 milliard d'habitants qui travaillent tout le temps. Bon, ça donne un effet évidemment considérable. Ce n'est pas du tout la même chose que si on raisonne par tête. Et si on prend le revenu par tête, bon, j'ai des chiffres qui sont assez récents, je ne sais pas si c'est le plus récent, c'est les chiffres 2012. Par tête annuelle, moi j'ai comme chiffre 6747, bon on va dire 6750 dollars par tête en Chine par an, aux États-Unis 53 000. Donc il y a une différence encore colossale. Donc si on prend le classement PIB, la Chine est numéro 2 ou bientôt numéro 1, et si on prend par tête, ça doit être le pays numéro 90 ou 95, etc. Donc il y a une vraie différence du point de vue en tout cas des individus chinois. Mais pas du point de vue de la puissance chinoise. Il n'empêche que ça a un effet considérable, cette annonce. Et même si on rappelle ce que je viens de dire sur le fait que la croissance est moins forte qu'avant, même si on a en tête qu'il y a des problèmes économiques en Chine maintenant, comme dans tous les pays émergents qui ont surchauffé, qui ont des problèmes d'inflation ou de pénurie de ceci ou cela, goulot d'étranglement, enfin des problèmes d'économie mature. Déjà, même si on a en tête les monstrueux problèmes écologiques en Chine, et pas ce que deviendra le climat demain, après-demain, plus tard, mais le fait que l'air n'est pas respirable dans beaucoup de grandes villes, ce qui annonce des conséquences de santé publique effroyables pour ce pays, notamment pour les habitants de Pékin, Shanghai, ça, Chengdu et
oui,
autres.
Chengdu, oui.
Même si on a tout ça en tête, ça fait un gros effet. Donc une question qu'on peut se poser, c'est quelle sera la réaction américaine ? Première réaction en disant c'est quand même pas tolérable, les États-Unis continuent à penser, même s'ils ne sont plus l'hyperpuissance d'il y a 20 ans, que c'est le pays numéro un et que ça entraîne des responsabilités particulières. Ils ont ce débat sur le plan stratégique, géostratégique, vous voyez ce débat extraordinaire aux États-Unis où les néoconservateurs qui avaient envahi l'Irak en 2003, enfin poussé le président Bush, sous l'impulsion du vice-président Cheney, à envahir l'Irak, essayer d'inventer une théorie selon laquelle c'est Obama qui aurait raté finalement, qui aurait raté en tout cas le retrait, alors même que Obama avait essayé de faire passer l'accord qui avait été préparé avant. Bon. Mais il faut coupler ça à autre chose, qui est qu'il y a une inquiétude qui se développe dans le monde par rapport à une nouvelle agressivité chinoise. Comme ça. Alors la Chine répète encore parfois le slogan inventé avant précisément pour rassurer ceux qui allaient s'inquiéter, peut-être l'émergence pacifique de la Chine. Parce que déjà il y a 10 ans, avec Jiang Zemin, ou un peu plus, les Chinois se préoccupaient d'une sorte de coalition des inquiétudes dans le monde par rapport à eux. Donc ils disaient, non, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est un rattrapage, c'est une émergence pacifique. Mais beaucoup de pays dans le monde se disent, ils ont changé de ton quand même. Et en tout cas, depuis l'équipe Xi Jinping et Li Keqiang, qui sont là donc depuis novembre 2012, il y a un ton différent qui est plus dur, il laisse moins passer les provocations japonaises, qui lui aussi est dans un cycle un peu nationaliste, on va dire. Donc il y a une interrogation stratégique, il n'y a pas que l'interrogation économique. Et ça amène d'ailleurs les pays...
Mais est-ce qu'elle vous paraît fondée, cette inquiétude sur la question stratégique? Et je ne parle pas de la question du Japon, c'est... qui concerne les Chinois et les Japonais, c'est... qui est très complexe.
Mais ça les concerne tous, ça concerne... Mais... Enfin, les interrogations, en tout cas, c'est Japon, Corée, Taïwan, évidemment, et tous les pays de l'ASEAN. On voit un pays comme le Vietnam, Dieu sait que le Vietnam a souffert des États-Unis pendant la Deuxième Guerre du Vietnam, et le Vietnam, quand même, développe des relations stratégiques ou militaires avec les États-Unis, parce qu'aucun de ces pays n'a envie de rester en tête-à-tête avec la Chine, et même s'ils ne sont pas sûrs que la Chine devienne carrément agressive, il y a quand même une interrogation sur sa dureté, son exigence. Il y a un budget militaire qui partait de presque zéro, mais qui se développe vite. Ça préoccupe Taïwan, mais c'est aussi une indication sur le plan maritime. Et la plupart des stratèges, et ça, c'est pas que des gens du Pentagone américain qui cherchent des prétextes pour maintenir un budget très élevé. La plupart des stratèges ont le sentiment que la Chine veut se doter de capacités, en tout cas maritimes, qui, petit à petit, rendrait pour les États-Unis très difficile de circuler librement dans les mers de Chine, alors que depuis 1945, ce sont les flottes américaines nombreuses qui assurent cette liberté de navigation, mais d'autres diront cette présence impériale américaine partout. Donc on ne peut pas trancher, parce que je pense qu'au sein de la direction chinoise, il y a plusieurs lignes, une hésitation, et que ça dépendra en fait de ce qui se passera en face. Est-ce qu'il y aura ou non coalition des inquiétudes? Est-ce qu'elle sera crédible? Est-ce qu'elle sera suffisamment forte pour qu'en Chine, ils se disent qu'il vaut mieux continuer à se concentrer sur une croissance économique de meilleure qualité et la question des questions des problèmes écologiques, ou au contraire, certains diront non, la prudence de Deng Xiaoping autrefois maintenant n'est plus de mise et nous avons une force qu'il faut être capable de montrer.
Si Deng Xiaoping disait il vaut mieux vivre dans l'ombre que dans la lumière.
Tant qu'on n'est pas assez fort. Ouais. C'est ça que disait
ça
Deng,
changé.
Qui est vraiment l'inventeur de la Chine moderne et qui a changé le monde à travers ça. Donc peut-être sont-ils en train de se dépasser cette prudence. Si c'était le cas, ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle.
Merci Hubert Védrine. Le Monde selon Hubert Védrine, comme chaque vendredi, bien sûr, à télécharger, à retrouver sur franceculture.fr.